L'Algérie a accusé Rabat d'avoir mené des assassinats ciblés ayant fait 3 morts dans la région du Sahara occidental. L'Algérie condamne énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen d'armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents ressortissants de 3 pays de la région, a affirmé le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Que cherche Rabat par ses raids aériens et comment analyser la réaction du ministère algérien des Affaires étrangères? Xavier Dupré, économiste et analyste politique, nous répond.
Alors, concernant ces attaques, il faut effectivement bien préciser que ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'actualité, si vous voulez, de ce conflit, parce que le conflit au Sahara occidental était un conflit de basse intensité, voire très basse intensité, puisqu'en fait, dans les années 80, le Maroc a construit le mur des sables qui, quelque part, sanctuarise la possession qu'il a sur, que le royaume chérifien a sur environ 75% de la superficie du Sahara occidental dans la partie ouest du territoire. Les 25% restants, 20-25% restants, bien, en fait, c'est un territoire sur lequel s'exerce la souveraineté de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, c'est un État. Il y a déjà là un embryon d'État, il y a une manifestation très nette de souveraineté. Ce qui a évidemment réchauffé le conflit, c'est la manœuvre machiavélique de l'administration Trump, qui, en échange du rapprochement de Rabat avec l'entité sioniste, s'est empressé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Depuis, les choses se sont terriblement compliquées. On sent que l'administration Biden, mais un peu comme de la même manière que sur le dossier du nucléaire iranien, l'administration Biden dit vouloir changer les choses, pose quelques gestes symboliques, mais n'arrive pas à rompre avec les décisions qui ont été prises par l'administration précédente. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une situation sécuritaire, complexe, problématique. C'est un territoire chaud. Le conflit entre les Sahraouis d'une part et le royaume chérifien d'autre part, eh bien, il s'est réchauffé et donc il y a une manifestation. Il y a vraiment des manifestations là, d'activités militaires tout à fait caractéristiques. Or, et pour avoir été au mois de novembre de l'année dernière, c'était il n'y a pas si longtemps, sur le territoire des Sahraouis, enfin j'étais surtout à Tindouf en Algérie, là où se trouvent les camps du Polisario, hébergés par l'Algérie, on constatait à l'époque une activité importante de drones marocains. Ces drones marocains, eh bien oui, effectivement, il leur arrive régulièrement de tirer sur des convois de camions qui, à partir de la Mauritanie, vont là où il y a cette souveraineté du Polisario sur cette partie-là du territoire du Sahara occidental. Eh bien, ils longent le mur des sables et à ce moment-là, l'armée marocaine n'hésite pas à tirer. Voilà pourquoi, en guise de commentaire sur la réaction des autorités algériennes, je ne peux que souscrire à leur vue. Il y a aujourd'hui une situation, il faut quand même bien rappeler les fondements du dossier sahraoui. Le Sahara occidental attend depuis 1975, et un avis de la Cour internationale de justice attend qu'un référendum d'autodétermination soit organisé. Donc il n'est pas question d'une autonomie plus ou moins limitée, plus ou moins importante. Il n'est pas question d'un statut de condominium entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental. Il est question de l'indépendance du Sahara occidental. Les Sahraouis veulent-ils, oui ou non, l'indépendance? C'est la question qui doit leur être posée dans un référendum. Cela fait maintenant plus de 30 ans que le royaume chérifien bloque toute initiative visant à permettre ce droit à l'autodétermination des peuples dans le cas des Sahraouis. Or, et c'est louable, Alger, l'Algérie comme pays, et de par son histoire tragique, sa lutte terrible, acharnée pour l'indépendance, l'Algérie est attachée au principe d'autodétermination des peuples. Et donc, aujourd'hui, ce que fait valoir Alger, c'est tout simplement ceci, c'est que il ne peut pas y avoir à la frontière, parce que vous êtes quand même très très... Là où il y a le mur des sabres, on est très très proche du sud algérien. Et donc, vous avez une activité de drone à proximité des frontières algériennes, alors que l'Algérie n'a jamais tenté quoi que ce soit, aucune initiative agressive contre le Maroc, et le tout pour empêcher le droit à l'autodétermination d'un peuple. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner fermement ce type d'agression unilatérale. Ce sont des assassinats. Je veux dire, ce sont des populations, ce sont des civils qui sont assassinés par une force militaire. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc il y a lieu clairement de condamner ces exactions au regard du droit international. Alors je crois qu'aujourd'hui la situation est devenue encore plus chaude et plus complexe parce qu'il y a deux enjeux qui font qu'aujourd'hui le Maroc est un acteur courtisé par les Européens et en même temps ses revendications posent problème pour ces mêmes Européens. Je vous explique comment se noue cette contradiction. On peut dire très clairement aujourd'hui que la situation de domination quasi-féodale de l'Europe occidentale par les États-Unis sur les questions de défense est complètement avalisée par nos gouvernements. Nous sommes, du point de vue militaire, une dépendance des États-Unis. Depuis la guerre en Ukraine, c'est très clair. Or, qu'observe-t-on ? La répercussion de cet état de choses, que je déplore, mais qui est un fait, je suis bien obligé de le constater. La répercussion de cet état de choses sur le dossier sahraoui, elle va consister à ce que le gouvernement espagnol, qui porte une terrible responsabilité, c'est ce gouvernement espagnol qui, en 1975, n'a pas correctement procédé à la décolonisation du territoire sur lequel il se trouvait. Eh bien, ce gouvernement espagnol va dire aujourd'hui qu'il est d'accord, sans demander l'avis des Sahraouis, avec la solution d'une autonomie, assez floue d'ailleurs, assez vague, c'est un projet assez vague, du Sahara occidental. C'est une rupture complète par rapport au droit international. Cela contribue évidemment à augmenter les tensions dans la région, mais c'est le prix à payer pour notre dépendance militaire à l'égard de l'OTAN. Mais évidemment, cela a des répercussions sur les fournitures de gaz ici en Europe. L'Espagne ne sera plus à l'avenir un partenaire important pour les livraisons de gaz algériens en Europe. Ce sera exclusivement l'Italie. Cela aussi, ça contribue à créer un certain nombre de tensions, évidemment, puisque quelque part, les Européens sont mis devant une situation... On s'est très bien débrouillé pour être dans cette situation problématique. Voilà, un pays comme l'Algérie qui est tout à fait fondamental pour nos fournitures de gaz, on s'en va comme ça un petit peu. Enfin, il faut le dire très clairement, il y a un manque de respect tout à fait flagrant. Mais voilà, nous avons choisi ça. Forcément, les Européens, ils se cabrent quand ils voient des choses comme ça. Ils ont l'impression que quelque part... on ne leur facilite pas la vie, l'Algérie ne leur facilite pas la vie, du point de vue des livraisons du gaz, alors que, je le répète, nous l'avons bien cherché. Dans ces conditions, ben, vous avez tous les ingrédients qui sont là pour que des tensions naissent, se développent et débouchent régulièrement sur les exactions que nous venons de dénoncer. Et là, je crains malheureusement que, d'un point de vue sécuritaire, je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment pointer le doigt, c'est que tout est fait pour que la situation se dégrade. L'Europe, parce qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de rompre avec le néocolonialisme à l'égard d'un grand pays comme l'Algérie à l'égard d'un petit peuple, mais qui a ses droits, comme le peuple sahraoui, eh bien parce que nous ne sommes pas capables de tourner définitivement la page du colonialisme pour envisager des relations à la fois respectueuses et de coopération et d'échanges économiques avec l'Algérie d'une part, le Maroc d'autre part et les Sahraouis aussi. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation de grave dégradation sécuritaire. Et je dirais doublement, hein, je dirais, il y va à la fois de la sécurité au sens le plus courant du terme, c'est-à-dire la sécurité physique liée à l'activité, au déploiement de troupes armées, mais aussi, pour nous Européens, la sécurité de nos approvisionnements en gaz. Il y a vraiment, si vous voulez, ce dossier sahraoui est très très emblématique. Si vous voulez, par exemple, le Maroc refusait au début des années 90 toute idée de référendum. Où a été concoctée cette pseudo-solution d'autonomie, de vague projet d'autonomie? Il n'a même pas été concocté au Maroc. Il a été formalisé dans le bureau de Jacques Chirac. Parce qu'effectivement, les relations, les bonnes relations entre le Maroc et Paris, entre Rabat et l'Élysée, font qu'aujourd'hui, eh bien, les Français ont toujours bloqué le dossier de l'accession à l'indépendance et du droit à l'autodétermination des Sahraouis. Si on ajoute à ça une attitude profondément, j'ose le mot, vraiment peu soucieuse du droit, à la limite, j'ai presque envie de dire un manque de professionnalisme en diplomatie de la part du gouvernement espagnol, eh bien, là encore, on donne cette impression d'irrespect du droit international, on donne l'impression que finalement, l'Espagne peut encore se comporter aujourd'hui, en 2022, comme en 1975, et passez-moi l'expression, au-dessus de la tête des Sahraouis pour faire des petites affaires, parce qu'on a des relations aussi privilégiées avec l'OTAN et Washington. Tout cela ne peut que concourir à la dégradation des données sécuritaires dans la région. Et je crains malheureusement, puisque il faut être très lucide aujourd'hui, notre état de dépendance est tel que même des candidats à l'élection présidentielle en France qui voulaient par exemple la sortie du commandement intégré de l'OTAN de la part de Paris, aujourd'hui refusent, ne veulent plus trop parler de cette hypothèse. Donc notre état de dépendance militaire à l'égard des États-Unis étant tel, les relations entre l'entité sioniste et Washington étant à ce point profondes, je crains malheureusement que nous ne donnions de plus en plus à l'avenir le spectacle d'empires coloniaux décadents, incapables de comprendre une nouvelle donne qui s'est pourtant installée il y a déjà 60 ans dans cette partie du monde, et à force de nous comporter comme si le temps des colonies n'était pas terminé, nous allons profondément accentuer les antagonismes dans la région, augmenter encore les souffrances et les injustices vécues par le peuple sahraoui, et à terme, tout cela pourrait déboucher sur une vraie et profonde montée des conflits dans la région. Voilà, je crois qu'ici, maintenant, si dans quelques temps, j'espère me tromper, j'espère sincèrement me tromper, la dégradation, les difficultés sur le plan sécuritaire dans cette région devenaient trop importantes, il y aurait lieu de pointer l'immense responsabilité des anciennes métropoles coloniales qui n'ont toujours pas compris qu'elles n'étaient plus des métropoles coloniales, et il faudra pointer aussi la dépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis et le jeu terriblement malsain qui a été joué par l'entité sioniste dans cette partie de l'Afrique du Nord. Ça, c'est indéniable. Il y a une dégradation depuis cette reconnaissance de la marocanité, la pseudo-marocanité du Sahara occidental, la mise en place d'un scénario où l'on va vers toujours davantage de conflictualité et d'antagonisme. Ça, ce scénario-là, il est très très clair et il est très très marqué. Il y a eu ce rapprochement avec l'entité sioniste et ensuite tout s'est dégradé. Je crois qu'il y a des responsabilités qui doivent dès aujourd'hui être pointées pour éviter que finalement le scénario du pire ne se réalise. Ce serait là un drame spécialement pour le petit peuple sahraoui qui lutte pour subsister en tant que collectivité humaine et nation depuis maintenant, eh bien, ça va faire depuis 1975, ça fait bientôt près de 50 ans. C'est énorme. Alors que, je le répète, et je terminerai là-dessus, le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est une condition expresse de la Cour, des Nations Unies, quelque part vraiment de l'organe suprême du droit international pour gérer la décolonisation dès 1975. Et la force de cet avis est telle qu'encore aujourd'hui, lorsque l'Union européenne, sur l'instigation de Paris, continue à vouloir, s'obstine à vouloir intégrer dans les accords commerciaux avec le Maroc le Sahara occidental, eh bien, le système, enfin la Cour de justice européenne et avant ça le tribunal de première instance de l'Union européenne, chaque fois que cela s'est produit, a rappelé le caractère, l'impossibilité qu'il y avait à intégrer, de par le droit international, le Sahara occidental dans l'orbite de la juridiction du royaume chérifien. Je crois qu'on ne peut pas être plus politiquement, quelque part. Ça signifie que notre système de justice nous dit non, non, ce n'est pas légal. Il y a un devoir d'organiser un processus d'autodétermination dans le Sahara occidental. Et le politique, la Commission européenne et nos gouvernements, à commencer par Madrid et Paris, par les gouvernements espagnols d'une part et français d'autre part, se refusent à appliquer le droit international. Nous sommes les principaux instigateurs de par notre manque de respect de l'Algérie et des Sahraouis, nous sommes les principaux instigateurs de la montée des antagonismes qui a lieu et se produit actuellement dans cette région du monde.